FM.
Même sur Radio G, bienvenue dans Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accompagner pendant une heure pour faire le point sur l'actu sport du Maine-et-Loire, mais pas seulement. Alors autour de la table ce soir, à la régie, Mathéo. Bonsoir Mathéo.
Bonsoir Flo, bonsoir à tous.
Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, très très bien, sous ce grand et beau soleil, j'étais à la piscine toute l'après-midi, donc on peut dire que
t'en
ça va un
profité.
Peu mieux. Ah, ah bah oui, oui, très clairement. Ouais.
C'est le principal. À ma gauche, Cédric, la mémoire de Génération Sport, comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien, entre deux, trois cartons, j'ai plus trouvé le temps de venir quoi.
Ouais, c'est bon ? Tout va bien ?
Ça avance bien.
Tu déménages ?
Ouais.
Ah, tu seras plus à proximité de la radio du coup ?
Non, non, non. Non.
Bon bah écoute, on espère t'avoir quand même toujours dans l'émission.
Cédric. Ah, à voir.
Le contrat va se renégocier très
charmant. C'est ça, on arrive en fin de saison, hein, tout se négocie. Hein.
Fin de saison, mais quasiment début, hein, voilà, parce que là on est déjà en fait dans
la
continuité.
On est sur l'avant-dernière
de la saison, c'est vrai, exactement. D'ailleurs, la semaine prochaine, émission anniversaire d'ailleurs.
Oui, c'est vrai. Je l'ai annoncé, ouais.
Quelques surprises ou pas ?
Il y aura des surprises, ouais.
Bon, bah, on a d'y être, en tout cas, mardi prochain, réservez votre créneau, puisque je pense que tous les intervenants dans l'histoire de Génération Sport seront présents, en tout cas.
En tout cas, ils seront évoqués.
Bon. À ma droite, l'homme pour qui c'est quasiment la dernière, on l'a appris aujourd'hui, voilà, à un moment donné, l'évolution de carrière fait que bah il sera peut-être plus là l'année prochaine. Comment vas-tu, Clément ?
Ça va. Peut-être ma dernière puisque désormais j'aurai mes entraînements le mardi soir. Donc ça tombera pile sur le créneau de Génération Sport. J'essaierai tout de même quand même de repasser et de pouvoir redonner mon avis sportif. Ouais. Quelques mardis soirs pendant les vacances, mais du coup oui, c'est sûrement ma dernière. En plus, je viens de l'entraînement, donc je suis un peu fatigué, mais ça va le faire.
Ouais, c'est la dernière en tant que chroniqueur régulier, mais il va revenir nous faire des coucous et des petites surprises de temps en temps pour nous régaler en tout cas. Avant d'attaquer le sujet principal de l'émission avec le match entre Lille et le SCO, bien évidemment, vous en avez l'habitude, on va évoquer l'actu locale. Alors au menu ce soir, l'actu locale, donc le Lille-Angers, un peu aussi de Ligue 1 forcément, parce qu'on va évoquer tous les résultats du week-end, puisque bah, Angers est en Ligue 1, donc on va quand même évoquer l'ensemble des autres équipes. On va évoquer ce qui se passe aussi en Ligue 2, avec un problème avec le diffuseur qui...
Pas content.
Exactement, Cédric, parce que bah on se retrouve avec des supporters qui expriment leur mécontentement et ça grince des dents, que ce soit à la Ligue, chez le diffuseur, chez les supporters. Donc on va voir si on peut trouver une solution, nous, Génération Sport, pour évoquer le sujet. Bien évidemment, on parlera aussi des Jeux Paralympiques, puisqu'ils commencent demain. On va revenir aussi sur les Jeux Olympiques, puisque Clément y était, et donc va nous faire un peu un retour et un parallèle avec ce qui va se passer à partir de demain. On évoquera aussi également l'actu internationale avec du badminton et l'US Open et de la Vuelta aussi en Espagne. Donc on a un gros programme aujourd'hui. Côté actu local, bien évidemment, on va commencer avec du hockey et la défaite des Ducs d'Angers en amical face à Rouen à l'Ice Park, 4-3. C'était ce week-end. Autre défaite dans un match amical, celle de l'EAB au basket face à Caen, 78-61. Par contre, il y a une victoire quand même tout de même pour le SCO Handball, 34-32 face à l'Union Sud-Mayenne. C'était son troisième match amical ce week-end. On rappelle aussi que le SCO Handball jouera la semaine prochaine, mardi prochain, pendant le créneau de Génération Sport, son match de Coupe de France face à l'US Ivry. Ce sera à la salle du Hara. Il y a encore des places si vous souhaitez vous diriger vers la salle de handball, en tout cas voir du hand et un match de Coupe de France, c'est encore possible. Il y a des places et il me semble que c'est à partir de 6 euros. Donc voilà, c'est un peu abordable. Voilà, il y a de tous les budgets pour le sport angevin. Après, voilà, on va faire un truc qui est pas très facile à faire, en tout cas dans Génération Sport, c'est aborder le sujet qui touche le Cholet Basket en ce moment avec le décès d'un joueur emblématique ce week-end. Un joueur qui est donc décédé, c'est Claude Marquis, un retraité bien évidemment, mais qui est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 44 ans, 36 sélections en équipe de France, finaliste de la Coupe de France en 2005 et en 2008, finaliste de l'Euro Challenge en 2009. Il est arrivé en 1995 à Cholet, il est passé pro en 99. Claude Marquis, c'est 11 saisons sous les couleurs choletaises, troisième meilleur marqueur de l'histoire du club. Alors, Génération Sport adresse donc ses sincères condoléances à la famille et à Cholet Basket, car c'est vraiment un visage donc de Cholet qui s'est éteint pendant de nombreuses années et qui donc est parti vers d'autres cieux. Voilà, c'est pas forcément facile pour évoquer ces sujets-là, mais il fallait le faire parce que c'est un joueur qui a marqué l'histoire du basket dans le Maine-et-Loire, donc... Donc voilà, t'as des souvenirs de lui, Cédric ?
Alors pas du tout. Le côté Cholet, c'est pas vraiment le club tu vois, que je suis de base. Donc non, ça, j'ai vu ça sur les réseaux effectivement, mais tu vois pas plus de le nom me parlait pas comme ça.
Ouais. Bah c'est une légende du basket choletais, voilà, qui est donc parti. C'est vrai que jeune, 44 ans pour décéder d'une crise cardiaque, c'est forcément pas facile, mais voilà, c'est 11 saisons, c'est quand même un joueur qui a marqué l'histoire du club. Malheureusement, il a même pas pu faire partie du titre de Cholet. Quand il y a eu le titre, il était prêté en Turquie, enfin il était prêté dans un autre club ailleurs, mais voilà. Donc malheureusement pour lui, il a pas eu ce titre de champion de France. Il avait gagné la semaine des As avec Cholet de mémoire. On va passer maintenant au sujet principal, Lille-Angers. Je pense en parler un peu longuement avant la pause musicale. On va faire un petit retour. 2-0 pour le LOSC, donc face aux Angevins. But de Thomas Meunier à la 34e minute, Mohamed Bayo à la 95e. Donc Thomas Meunier ouvre le score, Festival qui s'appuie sur Haraldsson. Il dribble quasiment une bonne partie de la défense de l'axe gauche de la défense angevine pour ensuite glisser un extérieur dans le petit filet de Fofana. On peut dire aussi que Fofana quand même a sauvé ses camarades de jeu puisque il détourne la frappe de Mbappé puis la frappe de Meunier qui aurait pu alourdir la marque et donc le SCO qui a joué un peu plus haut en seconde période, qui a eu quelques situations, on en parlait un peu en off tout à l'heure avec Clément. Sans grandement inquiéter Chevalier et le LOSC. Bayo qui vient éteindre tous les espoirs d'une égalisation lilloise dans les arrêts de jeu. Alors quel est votre retour, votre sentiment, les garçons, Mathéo, si tu veux commencer à aborder le sujet du SCO?
Ouais, bien sûr. Bah alors déjà moi, faut savoir qu'on n'a pas de chance. J'ai pas vu le match en soi. J'ai récupéré plein d'extraits sur Twitter. J'ai regardé tous les résumés possibles. J'ai lu tous les articles qui sont sortis depuis dimanche. Donc je pense avoir quand même un avis.
Comment ça, t'as
sur
préféré aller au restaurant le
bossais,
vendredi?
Je bossais, mon cher Cédric, j'étais au travail.
Et dépenser 30 euros?
Oui, c'est vrai qu'il fait référence à Laurent Nicolin, bien évidemment.
Exactement, exactement. Mais malheureusement, j'étais au travail. Et c'est vrai que, du coup, de ce que j'ai pu lire dans la presse, voir un petit peu moi-même, ça n'a pas été une mauvaise rencontre des Angevins. Alors, la première période, elle est très compliquée. Tu l'as dit, on a un grand Yaya Fofana. 4 arrêts en 45 minutes, c'est quand même assez énorme. Mais c'est des vrais beaux arrêts, pour le coup. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais on a eu un réveil en seconde période, notamment dû, offensivement en tout cas, au replacement de Abdelli sur la position de Zinedine Oulkhaled. Donc encore une fois, ça valide un petit peu tout ce qu'on a dit la semaine dernière sur justement Abdelli en extérieur de surface, un petit peu plus loin, qui distribue les ballons, et d'où cette nécessité, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard encore, de parler justement de ce fameux numéro 9 entre guillemets. Donc j'ai retenu pas mal de choses quand même de cette période, notamment sur Arcus, le latéral. Donc voilà, qui a fait une vraie bonne deuxième mi-temps offensive. C'est lui qui sonne un petit peu l'alerte de voilà, on peut revenir au score. Et c'est vrai que alors il est un petit peu à la peine défensivement, mais comme toute cette équipe sur cette rencontre, donc c'est difficile de lui jeter la pierre. Voilà, donc il y a des points positifs. Shérif aussi a fait de ce que j'ai pu voir, en tout cas quelques actions assez intéressantes. Faut quand même se dire que Lille, c'est quand même un collectif énorme. Il faut le dire, c'est quand même assez fou que là on puisse changer d'effectif comme ça, parce qu'ils jouent plein de matchs, forcément avec la Ligue des Champions, la Ligue 1 le week-end, ils sont à deux matchs par semaine, on a quand même un gros turnover au niveau de l'effectif, on avait des joueurs qui étaient absents aussi comme Angel Gomez, et puis tu te retrouves avec des joueurs comme Thomas Meunier titulaire, ou même Mohamed Bayo qui a joué, ça c'est quand même...
Même Mbappé, hein, Mbappé
titulaire, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a Mbappé titulaire, c'est assez fou.
Personne l'attendait titulaire tout de suite au LOSC, mais comme tu dis, il y a le turnover avec les playoffs de Ligue des Champions, enfin les derniers éliminatoires, c'est vrai que...
Et pourtant l'équipe reste assez dangereuse quand même, c'est
exactement.
Fou avec le LOSC.
Clément, est-ce que tu penses que Angers est tombé sur une équipe qui est déjà prête physiquement, puisque ils enchaînent les matchs comme dit Matteo?
Bah oui, bien sûr, ils arrivent enfin ça va peut-être être les premiers à se qualifier en Ligue des Champions.
Ça fait un petit moment.
Depuis Monaco, ouais. C'était il y a 5 ans. Et donc je pense que oui, c'est une équipe bien, déjà sur le papier, bien plus forte que le SCO, parce qu'on va pas se mentir, l'effectif du SCO est quand même limité pour jouer en Ligue 1. Mais déjà d'une, du coup, ils sont plus forts sur le papier et ils sont plus prêts aussi, je pense, parce que le SCO n'a gagné aucun de ses matchs de préparation n'a toujours pas gagné de match en fait depuis le début de la saison là. Donc forcément on tombe sur Lille, qui est déjà l'un des gros du championnat, qui est prêt et qui a déroulé son jeu. Donc oui, c'était sûr que ça allait être compliqué et je pense que il y a pas trop de surprises.
C'est vrai que t'as affronté une équipe qui avait déjà en fait la tête au match de demain soir, hein. Ils vont jouer contre Prague, donc ils seront en République tchèque là, ils sont déjà en République tchèque les Lillois. C'est vrai que pour le SCO, c'était un match que tu pouvais aborder quand même. Et malheureusement, ils ont joué qu'une mi-temps sur deux. Cédric, qu'est-ce que tu en penses de cette équipe du SCO qui donc est à réaction?
Parce qu'il y a de la Ligue 1. Non, parce que franchement, j'ai vu vite fait des résumés, mais voilà, ça.
C'est vrai qu'avec les droits, c'est compliqué.
C'est dur de se référencer à ça. Pas forcément surpris hein, sur les deux résultats. Parce que, voilà, tu prends Lens d'entrée de jeu. C'est quand même une grosse pointure maintenant de la Ligue 1, même si voilà, il y a eu des hauts et des bas là en fin de saison, mais bon, on connaît un peu la vibe lensoise. Lille, bon bah ils sont, de toute façon ils sont clairement bien préparés, hein, ils avaient pas le choix, donc ils arrivent. La seule chance qu'aurait pu avoir le SCO, c'est sur le côté peut-être on repose des joueurs. Là j'ai pas eu l'impression que ça a été vraiment le cas, ce que j'ai une suite à faire. Pareil, Genesio, mine de rien, c'est un entraîneur voilà qui impose ses choix, tout ça. Donc, je suis pas surpris que Lille démarre aussi bien. Et après, le problème du SCO, comme souvent, hein, c'est le recrutement. Des matchs de préparation qui sont pas forcément adaptés. Je pense qu'on aurait pu essayer de jouer un peu plus de grosses pointures de Ligue 1, voire Ligue 2 pour se préparer. Et là maintenant, le prochain match c'est Nice.
Ouais.
C'est encore un gros, mais passer Nice, Ils vont plus avoir trop le choix d'y aller, hein, parce que sinon ça, on va repartir sur une saison comme la dernière en Ligue 1, quoi.
Tu joues Nice, c'est vrai que ce week-end à 17h, donc ce Angers-Nice. D'ailleurs, j'y serai, donc on pourra en parler la semaine prochaine assez facilement. Je suis en train de re-regarder les matchs amicaux. Le match contre Bordeaux avait été annulé, ce qui est normal en même temps. Défaite contre Lorient,
tu vois,
Rennes. Bah, tu joues Lorient et Rennes sur ces deux derniers matchs amicaux, donc c'est quand même, tu montes en puissance. Après, tu joues Le Mans, tu perds contre Le Mans. Si tu fais une victoire contre Châteaubriand,
lors de
ton premier match amical. Voilà.
Mais bon, Châteaubriand,
faut le souligner quand même.
Faut le souligner, exactement. Donc, mais
tu t'en prends quand même deux contre le château.
Oui, voilà, c'est
exactement.
Ça.
T'en mets trois, t'en prends deux. Bon,
et exactement.
Mais après, on peut peut-être tirer quelques points positifs concernant, par exemple, ce jeune de 17 ans, Shérif, qui fait quand même, qui envoie des promesses avec quelques belles actions. Et puis Yaya Fofana qui rassure aussi.
Oui, bah oui.
Où on se dit, on va pas s'en prendre 50, quoi.
Non, non, c'est clair.
Parce que ça aurait pu être le cas.
Oui, c'est vrai que t'as des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer ou enfin te croire pour faire une saison correcte.
Mais c'est ça le problème aussi.
Mais la deuxième question que j'avais notée, c'est le mercato s'arrête à la fin de la semaine. Que faut-il espérer? Je sais que Mathéo aime parler de cette période de l'année. Il est très pointu sur le côté mercato et les joueurs qui peuvent potentiellement arriver ou non. C'est vrai que Shérif, 17 ans. Bon, il est les deux matchs titulaires. On sent qu'il a du potentiel, mais l'attaque ne peut pas reposer sur lui toute la saison. On est d'accord.
Ah non, c'est sûr, c'est très 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 compliqué. J'ai du mal à voir quand même Angers recruter quelque chose. Alors, j'ai l'impression que sur cette fin de mercato, on a beaucoup de choses qui se font un petit peu en secret sur plein de clubs. Je trouve qu'on a quand même du mal à voir des infos sortir. En tout cas, je pense que sur le SCO, c'est à peu près la même chose. J'ai du mal à voir le SCO ne pas recruter, même si j'ai aussi du mal à voir le SCO recruter dans le sens où je ne vois pas qui on pourrait prendre. Ouais. Honnêtement, avec ces problèmes de droit télé, bon ça on en a parlé longuement, et puis les problèmes financiers aussi. Du club, le fait qu'on n'a pas vendu des masses non plus cet été, même on n'a quasiment pas vendu, j'ai l'impression. Alors peut-être que Diony va partir, je sais même pas s'il est encore parti.
Non, il est encore au club.
Il est encore au club, bon bah voilà, ça reste. Je pense que si Diony part, il y aura peut-être un petit mouvement. Maintenant, c'est difficile et encore une fois, faut se poser la question de est-ce que l'écart ne se creuse pas entre les gros clubs et les petits clubs ? Parce que quand on voit des clubs comme Angers, comme Le Havre, même comme Saint-Etienne, Nantes encore, ça peut aller parce qu'ils ont fait un mercato intéressant. Ils ont des effectifs, enfin ils ont un effectif pardon assez bon et ou plutôt du niveau de la Ligue 1. C'est vrai qu'Angers, quand tu regardes l'effectif, il est pas forcément niveau Ligue 1. Mmh. Et quand tu vois que par exemple un club comme le Paris FC va faire Maxime Lopez. Mais aucun club de Ligue 1 peut se positionner sur Maxime Lopez, sérieusement.
Non, c'est clairement, mais complètement.
Donc voilà, on se pose des questions à ce niveau-là. Même Angers a besoin d'un milieu de terrain, très clairement. Aolu, pour l'instant, il fait pas l'affaire. Alors même si là, il a été préservé pour ce match contre Lille, contre Lens, il a pas été excellent. Même si attention, hein, c'est un match contre Lens, donc voilà, faut relativiser aussi un petit peu là-dessus. Mais c'est vrai que il y a un petit peu tous les postes qui sont à garnir, et ça, c'est franchement un vrai problème.
T'as vendu un joueur, c'est Yann Valéry.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
C'est Yann Valéry qui a été vendu.
Pour 400 000, non, c'est pas ça.
Moins de 500 000 euros.
Ouais. Et après, on en a acheté aucun, par contre.
Ouais. Enfin, après, c'est que
des prêts. Ou
en même temps, t'es obligé, hein, quand le plus petit budget de Ligue 1, t'es obligé de faire avec les moyens du bord et d'essayer de recruter malin. J'ai vu aussi qu'Alex Dujeu, dans la presse ce week-end, parlait de cette volonté d'acheter un neuf, hein, d'avoir un neuf buteur, hein, d'avoir ce neuf qui vienne, entre guillemets, aider cette attaque à progresser. Mais le problème, c'est qu'il le dit lui-même, c'est que, un, il n'y a pas beaucoup de budget, et deux, il y a aussi le fait que énormément de clubs ont besoin de ce joueur numéro 9 buteur, donc la concurrence est rude pour avoir.
Très cher. Ouais. Faut juste voir combien Rennes a dépensé pour Henrik Meister. Ils ont dépensé 13 millions pour un mec qui a fait genre, je crois, 6 ou 7 matchs en Norvège.
Ah,
si je dis pas de bêtises, donc c'est un truc de malade.
Alors, certes, pour nous,
son profil est assez exceptionnel pour un buteur. Là, il est grand, il est rapide, il a un bon enchaînement de frappe, mais 13 millions sur un mec qui a fait peut-être une dizaine de matchs en Norvège, quoi.
Ils essaient d'avoir le nouveau Haaland.
Comment nous on peut le faire? Concrètement, dans ces cas-là, si tu réfléchis comme ça, on va devoir aller chercher des mecs en D2 indienne.
Ouais, non, mais
ils sont peut-être très bons.
Dans FC25, t'envoies ton recruteur au fin fond de n'importe quel pays pour essayer de trouver une jeune pépite. Malheureusement, ça ne le fait pas ici aussi, entre guillemets, en réalité, du côté du SCO.
Après, quand on regarde, au final, il y a que Auxerre qui s'en sort bien dans ceux qui sont montés.
Mais bien sûr.
Saint-Etienne, pareil, avec un budget qui est pourtant plus élevé.
Et eux, pourtant, ils ont eu du mouvement, Saint-Etienne. Voilà. Hein, ils ont eu des joueurs qui sont arrivés.
Ils sont aussi en difficulté. Hein.
Ouais. La saison commence quand pour le SCO réellement? Parce que bon, là, on lance, puis après Lille, là, tu joues Nice, donc tu joues quand même trois équipes d'entrée de jeu pour qui les ambitions sont les places européennes, hein, on va pas se le mentir. Nice, clairement, dans son recrutement, en plus, on parle de rumeurs de Memphis Depay du côté de Nice. Bon, ça sera pas pour ce week-end parce qu'il sera peut-être pas apte à, ou qualifié pour jouer. Mais c'est vrai que Nice a une ambition européenne. Le match le plus important, c'est quoi? C'est Strasbourg et Nantes, les deux à suivre. Hein,
déjà le 22, ça, c'est là où tu lances ta saison normalement.
Contre Nantes,
c'est le derby.
Ouais.
Si tu
faut faire au moins un résultat à Strasbourg, de prendre un point, et puis après tu lances clairement ta saison contre Nantes.
Enfin, même alors, directement les trois points.
Ce qu'il y a à dire quand même, que Strasbourg, pour moi, c'est pas un concurrent du SCO en tant que tel. Hein.
C'est vrai que quand on voit sévère, hein.
L'effectif qu'ils sont en train de se construire, c'est quand même assez fou. Et c'est un club qui a lâché plusieurs dizaines de millions d'euros sur plusieurs joueurs.
Ouais, ce que
plein de gros clubs ne sont pas capables de faire. Donc, il faut quand même, à ce niveau-là, essayer d'être raisonnable. Alors maintenant, c'est du football. Tout est possible.
Oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que, mais même Nantes, hein, j'ai du mal à voir. Je regardais l'effectif nantais ce midi, justement. Et c'est vrai qu'on a quand même des joueurs au SCO qu'on n'a pas, même que dans des clubs comme Le Havre, on n'a pas. Il y a vraiment une différence, il y a un palier, alors que c'est des équipes contre qui on est censé jouer pour le maintien.
Après,
c'est compliqué.
Après, moi, je mets ma petite pièce sur ce week-end, parce que Nice n'a toujours pas gagné de match cette saison. Mmh. Ils ont seulement fait un nul et ils ont perdu contre Auxerre qui monte. Donc, pourquoi pas aller chercher un point? Déjà, ce serait peut-être lancer un petit peu sa saison face à Nice, parce que ce serait quand même... Enfin, on peut parler de petite performance d'aller chercher un point face à Nice.
Ouais, c'est vrai que Nice, pour l'instant, c'est deux matchs nuls à la suite.
Non, ils ont perdu le premier match.
Ils ont perdu le premier, ouais, et font match nul le deuxième, c'est vrai, exactement. Face sur une pelouse complètement catastrophique.
Oui,
mais,
quoi, t'aimes pas les champs de patates?
Non, bah, c'est clair. Là, ça devrait puer, pour la Ligue. Mais bon, la Ligue, pour l'instant, a autre chose à faire. On en reparlera plus tard, mais voilà. C'est vrai que Strasbourg, je viens de regarder l'effectif, c'est 50 millions d'achats cet été. Hein, donc, c'est pas du tout la même chose que pour
sur les 3-4 derniers jours, ils ont recruté deux joueurs pour 10 millions.
Ouais.
Donc c'est énorme. Quand même.
C'est énorme. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur le Lille-Angers, en tout cas, Angers-Nice à suivre. C'est vrai qu'on a évoqué ce derby très important le 22 septembre prochain pour le SCO. C'est à domicile, donc j'espère que le stade sera plein à ce moment-là de la saison. Faut l'espérer.
Oui, il le faut.
Il le faut, exactement.
Je suis même pas sûr qu'il sera plein.
Non, tu penses pas?
Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura quoi, 12 000, 13 000 personnes, mais pas guichet fermé en tout cas.
Mathéo, ton pronostic, allez, on fait un petit point sur l'affluence de Angers.
Moi, je pense que je vais me positionner comme Clément, ouais. Ça dépend, mais là, le SCO monte pas vraiment en puissance. Enfin, en tout cas, en termes de résultats, hein, et on sait que les gens à Angers regardent parfois un petit peu de loin le foot, donc peuvent juste s'attendre à des résultats pour venir voir un match. Là, c'est pas le cas. Mmh. Donc, c'est vrai que guichet fermé, c'est assez dur à faire. Après, pourquoi pas, voilà, finalement. Mais je pense que oui, 12, 13 000, c'est raisonnable.
Ouais, il faudra prendre des points rapidement. Je suis en train de regarder le calendrier pour le SCO. Alors, bien sûr, je me projette un peu trop loin, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est vrai que quand on voit du 3 novembre au 8 décembre, tu joues à Monaco, tu reçois le Paris Saint-Germain, mais tu te déplaces deux fois contre des concurrents directs au maintien qui seront Auxerre et Le Havre, et tu finiras par Lyon et Rennes avant les vacances, avant la fin d'année 2024.
La trêve hivernale,
c'est voilà, il va falloir marquer des points très rapidement et de prendre, comme tu le dis Clément, de prendre un point ce week-end, c'est primordial. Maintenant, on verra si d'ici samedi un joueur sera qualifié ou un joueur arrivera dans l'effectif angevin. On avait évoqué Youssef Attal la semaine dernière, mais pour l'instant, on n'a pas vu de...
Pas bougé.
Bah, il parlait d'Andy Delors, mais maintenant, désormais, je crois que la piste est complètement fermée. En début de mercato, il parlait d'Andy Delors, mais je pense que c'est complètement fermé désormais.
Après, c'est d'un point de vue salaire aussi, hein, le club.
Bah, est-ce que
le club du SCO est capable de pouvoir aligner un salaire pour Andy Delors? C'est vrai que beaucoup de clubs de Ligue 1 le veulent. Et c'est vrai que la semaine dernière, on s'amusait un peu en off après l'émission de regarder un peu les joueurs disponibles de libre sur le site de l'UNFP.
C'est compliqué. Hein.
C'est compliqué de trouver des attaquants qui peuvent te marquer des buts et te mettre cette dizaine de buts dont t'as besoin.
Parce qu'on a vu des mecs comme Adam Ounas qui eux peuvent jouer neuf, mais alors c'est vraiment du secours quoi. C'est
oui.
Un truc sur un ou deux matchs à la saison.
Ouais, c'est ça. C'est Adam Ounas, c'est le neuf que pourrait transformer Luis Enrique si t'avais un entraîneur à la Luis Enrique quoi.
Ouais, un peu.
En faux neuf.
En vrai, c'est un peu ça. Ouais.
En faux neuf, voilà. On va faire le point avant de faire la pause musicale sur les scores de la Ligue 1 ce week-end, avec notamment vendredi dernier, c'était le match d'ouverture de cette seconde journée, le Paris Saint-Germain a clairement mis un 7-0 à Montpellier. 6-0 les Montpellierains. Exactement.
Ouais, c'était mieux d'aller au restaurant.
Bah, j'allais la faire, Cédric, parce que j'allais te tendre la perche, parce que c'est vrai que dans la journée, Cédric nous avait envoyé la déclaration, la sortie lunaire de Laurent Nucalin sur le prix de l'abonnement et dire que ça vaut un restaurant et donc si on va pas au restaurant le vendredi soir, on peut se payer un abonnement. Voilà. Le soir même, tu prends 6 buts. Tu prends 6 buts au Parc des Princes. C'est magique. Lyon s'est incliné à domicile face à Monaco. Je pense qu'on en parlera après la pause musicale avec avec Mathéo. 2-0 donc défaite des Lyonnais. Autre défaite 2-0, c'est le rival de l'Olympique Lyonnais, l'AS Saint-Étienne qui a perdu face au Havre 2-0.
Pas les chambres.
Non, exactement. Le dimanche à 15h, à 17h, Lens-Brest 2-0. 15h, ouais, Lens-Brest 2-0. Strasbourg-Rennes, victoire de Strasbourg 3-1. Nantes-Auxerre 2-0. Nice-Toulouse 1-0. Et l'Olympique de Marseille face à Reims 2-0. Voilà, c'est les scores de cette deuxième journée. On fait une petite pause musicale. Mathéo, je te laisse annoncer le titre.
Eh ben, on va écouter Touch the Sky de Kanye West. Ceux qui ont un petit peu suivi le basket au JO reconnaîtront un petit peu la mélodie.
Parfait.
I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Back when they thought pink polos would hurt the rock. Before Cam got the shit to pop, the doors closed. I felt like Bad Boy Street Team, I couldn't work the locks. Now let's go, take them back to the plan. Me and my mama hopped in that U-Haul van. Any pessimists, I ain't talk to them. Plus I ain't had no phone in my apartment. Let's take them back to the club. At least about an hour I stand online. I just wanted to dance. I went to Jacob an hour after I got my advance. I just wanted to shine. Jake's favorite line, dog, in due time. Now they look at me like, damn, dog, you what I am. A hip-hop legend, I think I died in an accident. Cause this must be heaven. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Yeah. For the day I die, I'ma touch the sky. Now let's take them high. Back when Slick Rick got the shit to pop, I'd do anything to say I got it. Damn, them new loafers hurt my pocket. Before anybody wanted K-West beats, me and my girls split the buffet at KFC. Dog, I was having nervous breakdowns. Like, man, these niggas that much better than me. Baby, I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again. Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, things became different. Any girl I cheated on, she just skeeted on. Couldn't keep it at home, thought I needed a knee alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them same wrongs help me write the song now. I gotta testify, come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl, testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. Yes, 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 guess who's on third? Lupe still like looping the third. Here like here till I'm bitter on the curb. Peach fuzz buzz but bitter on the verge. Let's slow it down like river on the serb. Bottle shaped body like Mrs. Butterworth. But before you say another word, I'm back on the block like I'm laying on the street. I'm trying to stop lying like a mum rob, but I'm not lying when I'm laying on the beat. On guard, a touche, Lupe, cool as the unthaw. But I still feel possessed as a gun charge. Become as correct as a porn star. And a fresh pair of steps and my best phone call. So, I represent the first. Now let me end my verse right where the horns are. Like, I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl. Testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, yeah, you gon' touch the sky.
We back at home, baby.
Sky high, yeah. I'm sky high. I'm sky high, I'm sky high, I'm sky high, I'm sky.
n'y a pas que Kanye West qui prend la monnaie des gens. Il y a aussi la LFP, on en parlera dans quelques instants. She Take My Money de Kanye West. Mais non, c'était Jimmy Foxx qui chantait en plus.
Exactement, t'as bien connu la voix. T'es très très fort. Tu rattrapes très très bien les choses.
Bon, bah, on va voir si on rattrape bien les choses. Bon, sur la Ligue 1 en tout cas, avec on avait donné les résultats. Est-ce qu'il y a un match, une équipe qui vous a alerté ce week-end, qui vous donne envie de parler? Allez.
Bah, le PSG quand même qui met 6-0 après avoir gagné 5-0 la semaine passée. C'est un message qu'envoie le PSG. Et puis encore une fois, Barcola qui est trop sous-coté, je trouve, et qui n'est pas mis là où il doit l'être, parce que bah, quand je pense à l'équipe de France, on va pas ressasser les démons du passé, mais Barcola, ouais, qui marche pour l'instant sur le début de cette Ligue 1 et qui fait la paire avec Neves, donc oui, le PSG qui m'a impressionné.
Il est en confiance, Barcola, et c'est vrai que la petite déception, c'est de pas l'avoir vu plus que ça à l'Euro. C'est comme ça, malheureusement. Et moi, ma plus grosse déception, c'est de voir l'utilisation qu'il a eu à l'Euro et l'utilisation qu'il aurait pu avoir aux Jeux Olympiques avec
oui,
Thierry
aussi,
Henry.
Ouais.
Ça, c'est ma déception perso. Et Zaïre Emery aussi. Hein. Quand on voit comment il a affûté là, en même temps, il a pas joué pendant l'Euro, donc forcément, c'est autre chose.
Non, Mathéo, il fallait protéger mon kiki.
Ah, Didier Deschamps est avec nous dans le studio. Mathéo, est-ce qu'il y a un match ce week-end qui t'a le plus alerté? Bien évidemment, je pense avoir une idée de ce match.
C'est vrai que là, pour le coup, j'ai dit que je travaillais pour le match du SCO. C'était vrai, mais j'ai peut-être regardé le match de l'Olympique Lyonnais aussi au travail, parce que je l'ai pas fait pour le match d'Angers. Non, j'ai regardé quelques petites parties du.
Ton employeur écoute pas, j'espère.
Non, j'espère pas.
On taira l'employeur de
Mathieu. Verra demain, de toute façon. Voilà, c'est ça le truc. Non, en vrai, donc j'ai pas tout regardé le match, forcément, quand tu travailles, c'est un peu compliqué, mais j'ai regardé des briques, et puis après, j'ai été sur Twitter, je me suis refait plein de vidéos aussi. Et, waouh, il y a des choses, en fait, concrètement, tout ce que j'ai dit la semaine dernière, tout ce que j'ai rabâché, c'est ce qui s'est passé concrètement, un milieu de terrain qui ne fonctionne pas, qui n'est pas du tout complémentaire, une défense pareil qui on sait pas, enfin, concrètement elle marche la défense, ils se connaissent pas. En fait, c'est comme si tu avais mis des joueurs qui ne s'étaient jamais vus sur un terrain ensemble avec des profils opposés. C'est concrètement ce que fait l'Olympique Lyonnais aujourd'hui. Alors il y a quelques petits points positifs quand même. On a vu des joueurs comme Lucas Perry par exemple, le gardien. Alors lui c'est pareil, c'est une anomalie dans le sens où on ne sait pas ce qu'il fait à Lyon. On parlait en antenne de profil d'ailier moderne. Lui, je pense que c'est le profil d'un gardien moderne, c'est-à-dire très grand, très rapide sur sa ligne, avec vraiment des réflexes assez fous quand même.
Ouais.
Des joueurs comme Malik Fofana aussi, mais il n'y a que 2-3 satisfactions dans un sport qui se joue à 11.
Ouais.
Donc non, c'est très très compliqué. On a vraiment une défense qui est une passoire à ce niveau-là.
Ouais, on parle de Perry, tu me dis que Perry est un très bon gardien. Je te rejoins là-dessus, hein, c'est vrai, mais il est lâché complètement par sa défense et il prend 5 buts dans le match.
Le deuxième but, je sais pas si l'un de vous a vu le deuxième but, celui de Lamine Camara, quand même, on a 4 joueurs monégasques, là où on a 0 joueurs lyonnais, quoi. C'est quand même assez terrifiant, ce genre d'action pour un club qui se dit vouloir jouer la Ligue des Champions. Donc, à un moment donné, il va falloir se réveiller à ce niveau-là. Et qui va jouer une Coupe d'Europe. Et alors là, c'est bien, ça se réveille un petit peu sur le mercato, il commence à y avoir des recrues. Alors, il faut vendre. Ça, je pense que il y aura pas non plus trop de problèmes quand on voit que des joueurs, par exemple, comme Sinali Diomandé, je sais pas si vous connaissez Sinali Diomandé, mais Sinali Diomandé qui garde quand même une certaine cote dans le sens où, par exemple, Bologne se positionne sur Mbemba. Si Mbemba ne va pas à Bologne, ce sera Sinali Diomandé vraisemblablement pour 5 millions d'euros. Donc, ça reste un joueur qui a une cote, par exemple.
Ouais.
On a des joueurs comme Amin Sarr qui sont partis en prêt avec option d'achat à l'Hellas Vérone. Anthony Lopez va partir. Enfin voilà, concrètement, dégraisser, moi, c'est pas non plus ce que j'attends le plus. Pour moi, c'est des recrues, notamment au milieu de terrain. Et alors, quelqu'un est arrivé aujourd'hui, c'est Tessman, le milieu de Venise. Alors ça, pour le coup, pour moi, c'était absolument le joueur à faire. C'était évident. Tessman, il a ce profil du joueur qui nous manque, surtout qu'il a que 22 ans, ça peut être la doublure de Matic, voire un joueur complémentaire au milieu de terrain, parce que c'est pas vraiment un pur 6. Donc ça a été fait, honnêtement, heureusement, parce que c'était en plus une opportunité de marché assez exceptionnelle, dans le sens où il a été acheté 6 millions d'euros, alors qu'il en vaut, je pense qu'il en vaut une petite douzaine sous 4 ans de contrat.
Ouais.
Et il lui restait un an, donc ça bosse quand même un petit peu. Mais globalement, ça va être assez terrifiant, je pense, cette saison-là. Donc voilà, c'est le match que j'ai vu, bien évidemment, ce week-end. Mais moi, la performance que j'aimerais le plus louer, c'est celle de Strasbourg, hein, ouais. Bien évidemment.
Et point, d'ailleurs, Clément m'a informé avant l'antenne. C'est vrai que je me souvenais plus de la personne qui allait affronter Lyon, c'est Strasbourg.
C'est oui, c'est Strasbourg. C'est ça, oui. Oui, qui a battu Rennes,
vendredi soir,
ouais. 3-0. Donc
ça va être sympa, vendredi soir.
Ça va être très bien.
Ça va être très sympa. C'est vrai, qu'est-ce qu'il y a une équipe que tu veux mettre en avant dans ce début de la Ligue 1?
Bah écoute, j'ai vu aucun match, donc ça va être un peu dur, ouais. Mais belle performance, ouais, de Barcola sur les deux matchs, en tout cas, c'est sûr. Et après, j'ai pas vu grand-chose, hein. Donc ouais, je dirais juste Barcola, quoi.
Mais... Eh bah écoute, c'est déjà un début pour Barcola. D'ailleurs, on parlait du Paris Saint-Germain, de Lyon, on va connaître leurs adversaires dans les compétitions européennes à partir de jeudi, puis après vendredi, bien évidemment. On verra si Lille s'impose demain soir face à Prague, pour voir si, donc on aura quatre équipes en Ligue des Champions avec le PSG, Monaco, Brest, pour qui c'est compliqué aussi ce début de saison avec deux défaites à suivre, et donc potentiellement le LOSC aussi en Ligue des Champions, puis après on aurait Lyon en Europa League.
Lens
en Conference League.
Conference League. Alors,
et
qui
Rennes
est en Europa League.
Non, c'est Rennes, je crois. Il me semble que Rennes est en Europa League.
Oui. Ok.
Voilà, Rennes et Lyon, puis après, bien évidemment, Lens en Conference League. C'est les six équipes qui sont qualifiées pour les, non, les sept équipes qualifiées pour les compétitions européennes au niveau de la Ligue 1.
Le tout dans un nouveau format infernal.
Exactement. On pourra en parler la semaine prochaine parce que.
Je pense que ça peut être sympa.
On peut en parler rapidement maintenant. Ouais. Bien évidemment, 36 équipes en Ligue des Champions au lieu de 32 cette année. Les 36 équipes sont divisées en 4 chapeaux, bien évidemment. Donc 9 équipes par chapeau en fonction de leurs résultats européens lors des dernières saisons. Et donc, chaque équipe, donc Brest, on va dire qu'on va parler de Brest parce que Brest sera dans le dernier chapeau, l'une des dernières équipes, même je pense que la dernière équipe au niveau du coefficient UEFA. Brest affrontera deux équipes du chapeau 1, donc potentiellement le Real Madrid et le Bayern, voilà comme pour donner une idée.
Ouais,
dans le chapeau 2, on aurait donc deux autres équipes qui pourraient être le Borussia Dortmund et une autre équipe, puis après tu vas jouer deux équipes du chapeau 3, puis deux équipes de ton chapeau aussi, qui seront aussi, comme toi, des équipes avec moins d'expérience en Ligue des Champions, donc ça peut apporter du spectacle. Tout ça dans une formule de championnat, il n'y a plus de poule, et donc chaque victoire vaut 3 points, tu joues 8 fois, donc maximum 24 points bien évidemment, mais bien après, à voir, si t'es premier jusqu'au 8e, bah t'es qualifié directement, le 9e jusqu'au 3x9, 27 à peu près, voilà, jusqu'au 27e, du coup, du 9e au 27e, tu joues des barrages, et en fonction, t'es exempté de premier tour, deuxième tour, bref, voilà, c'est vrai que c'est infernal, mais...
Le tout avec un semi-tirage automatisé, enfin, c'est...
Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce tirage au sort pourrait être un peu bizarre, voilà, c'est vraiment automatisé, on verra contre qui les équipes vont jouer.
En présentation, mais
forcément,
en tout cas, c'était compliqué pour le
forcément,
PSG.
Forcément, je pense que l'UEFA va faire en sorte d'avoir un. Je ne vois pas l'UEFA laisser automatiser le truc complètement et ne pas avoir des algorithmes qui pourraient faire en sorte que tu puisses avoir des affiches énormes dans cette phase de poule. Parce que là, en gros, c'est fait pour que tu aies un championnat où le Real peut jouer deux grosses équipes en poule, puis même deux équipes de chapeau 2 incroyables. Donc je pense qu'on va avoir des trucs assez monstrueux.
On sait que dans les paramètres, c'est pas plus de deux équipes...
De ton même pays ?
Deux ou trois du même pays.
Bon, ouais. Bah, on verra ça, en tout cas, jeudi pour la Ligue des Champions et pour les clubs de Ligue 1. On passe au niveau inférieur. Tu voulais dire quelque chose, Mathéo, pas sur ce tirage au sort, non ?
Non, moi j'attends juste de voir comment ça va se profiler. C'est vrai que le foot maintenant c'est vachement sensationnaliste, donc ça me choquerait pas que l'algorithme soit un petit peu modifié des mains de l'UEFA. Mais non, franchement, pour moi, renouveler le format de la Ligue des Champions dans un football aujourd'hui qui devient quand même de plus en plus ennuyant et qui arrive de moins en moins à attirer de nouvelles personnes, bah voilà, je pense que c'est quand même plutôt une bonne chose. Ouais.
Eh bien, on verra ça donc jeudi, on disait. On passe au niveau inférieur avec la Ligue 2. La Ligue 2, là où Angers était il y a encore 6 mois, même pas. Avec des quarts régies saccagés, des matchs interrompus, des banderoles et des lasers à destination des caméras. Mécontentement des supporters de Ligue 2 suite au déplacement du multiplex le vendredi soir à 20h en lieu et place du samedi 19h, on voit énormément de banderoles également en Ligue 1, à Angers, c'était le cas face à Lens avec des banderoles des supporters angevins qui donnaient leur soutien aux supporters de Ligue 2 ou qui disaient que Bein tue la Ligue 2, ou alors le foot c'est mieux le week-end. C'est souvent les banderoles qui ressortent chaque week-end et chaque fois au stade, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Une réunion de crise entre la LFP, Bein Sport et l'Association nationale des supporters aura lieu demain après-midi. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes optimiste, ou est-ce que vous êtes d'accord avec ces supporters qui estiment que le football, c'est le week-end, Cédric?
Je trouve que ça paraît logique quand même, les matchs de Ligue 2 le samedi, en tout cas pour le multiplex. Le samedi, c'est quand même beaucoup plus accessible pour tout le monde, que ce soit pour les familles, que ce soit pour les travailleurs. Il y a toujours eu des matchs le vendredi soir, ça se fait très bien en Ligue 1. Donc pourquoi pas une journée, voire...
Oui, comme en fin d'année, voilà. où il y a des journées qui sont que à 21h le vendredi soir.
C'est ça, voilà, pourquoi
pas. Dérangeant.
Tu peux faire jouer aussi un match, parce qu'on a vu des matchs de Ligue 2 l'année dernière, je crois.
Oui, t'avais des matchs de Ligue 2
qui se jouaient le lundi.
Le lundi soir.
Mais t'as toujours un match.
Il y a toujours, voilà. Ouais. Donc, en soi, c'est pas forcément gênant, mais je trouve que oui, qu'on aille l'ensemble des matchs un vendredi soir. En plus, sachant qu'il y avait quand même les matchs de Ligue 1.
Ouais.
Ça met tout. Tu te retrouves le samedi, il y a quasiment plus rien. Il y a trois ou deux matchs de Ligue 1.
Alors,
dans la soirée, je crois.
T'as trois matchs de Ligue 1, donc t'en as un à 17h, un à 19h, un à 21h, et tu as un match de Ligue 2 à 15h le samedi aussi.
Voilà. Pourquoi mettre un seul match dans l'après-midi, tu vois, enfin.
T'as sept matchs de Ligue 2 le vendredi soir à 19h.
Ouais.
Donc, à 20h avec le multiplex. T'en as un à 15h et un le lundi soir. Hier soir, c'était donc Red Star Ajaccio. Victoire de Red Star 1-0 pour le retour de la Ligue 2 à Bauer.
Mais je comprends les supporters sur ce point de vue-là. Il y a sûrement, il y a de l'exagération pour certains qui disent qu'ils veulent absolument aucun match, en disant oui, les matchs en semaine, non. Le vendredi, on est déjà dans le week-end, en soi, c'est un match, de la journée, ça serait pas dérangeant. Faut que ça s'équilibre, en fait, sur tous les clubs aussi, c'est ça aussi, faut voir. Parce qu'on sait comment ça marche aussi, les matchs, c'est en fonction de ce que ça peut te rapporter en termes d'audience. Donc faut voir. Après, Bein qui fait des menaces en mode on va peut-être se retirer, j'y crois moyennement. Parce que ils ont signé un engagement moral, mais aussi un engagement judiciaire. Donc je pense que s'ils devaient quitter la Ligue 1, enfin la Ligue 2, ça va leur coûter beaucoup plus cher au final. C'est, je pense, beaucoup de bruit, en fait, pour pas grand chose. Je pense que on va sûrement revenir à une situation comme l'année dernière, qui marchait très bien. Et voilà, quoi.
Clément?
Je pense la même chose que Cédric. Je pense aussi que peut-être les supporters peuvent être mécontents, mais ça dépasse peut-être un peu les bornes en saccageant des cars régie, en mettant des lumières sous les caméras. J'y vois pas trop l'intérêt. Enfin, on peut exprimer son mécontentement par des banderoles, mais de là à détruire des biens, etc. Je pense qu'il faut pas en arriver là. Et c'est sûr que oui, c'est dérangeant que les matchs soient le vendredi soir, surtout pour aller au stade ou quoi que ce soit, parce que c'est même le lundi soir, c'est pas pratique, c'est le début de la semaine pour je pense aux gens qui veulent faire le déplacement, aux supporters les plus fidèles qui par exemple doivent se rendre je sais pas à Rodez en habitant à Paris, c'est assez dérangeant. Donc je pense que oui, le foot c'est le week-end, même en amateur les matchs c'est le samedi ou le dimanche, à la limite le vendredi soir, mais ça a jamais été le lundi ou le vendredi plutôt dans la journée. Donc je pense que ça doit rester le week-end, et c'est avant tout un plaisir de regarder le foot le week-end et pas un fardeau, on va dire ça comme ça.
Mathéo. Non, puis souvent plus le vendredi, même chez les amateurs et même chez les jeunes.
Les joueurs qui vont
voilà, oui, c'est les joueurs, c'est sûr.
Et c'est ces jeunes-là aussi qu'on retrouve en présentation de match, qui sont là pour ramasser des ballons.
Exactement. Enfin,
ouais. Et le problème, c'est que je pense que t'es obligé de mettre des matchs aussi à un moment donné le vendredi soir,
oui,
parce
mais
que faut que faut t'arriver à espacer ton produit. Alors après, je te rejoins, Cédric, sur un point, c'est que tu l'as dit toi-même tout à l'heure, c'est le fait d'avoir la Ligue 2 parfois en même temps que la Ligue 1. Et je trouve que du coup, tu valorises pas ton produit, parce que tes sept matchs là de vendredi soir à 20h. bah en fait la moitié des gens ont zappé sur le Paris Saint-Germain. Derrière, ils ont eu raison. Ils ont vu ses buts dans la rencontre. Bon, après il y en avait quatre en deuxième période, mais voilà, tu en plus tu mets Paris à vendredi soir à 21h. Pour DAZN voulait avoir l'affiche aussi, donc forcément ils l'ont mis à ce moment-là, mais c'est vrai que tu valorises pas du coup ton produit de Ligue 2. Et comment intéresser les gens à ton produit Ligue 2 si en face tu mets un match de Ligue 1?
Tu regardes, c'est construit pour que ce soit la Ligue 1 exclusivement qui soit promouvue, quoi, au final.
C'est dommage. Dommage, Mathéo, ton avis.
Bah, de toute façon, c'est ça l'objectif, c'est ce pourquoi ils l'ont déplacé au vendredi. Et j'aimerais refaire le parallèle avec ce que t'as dit, Clément, sur le lundi, c'est que historiquement, on a quand même 7 journées du lundi en Ligue 2 pour promouvoir le produit, dans le sens où justement, t'as pas beaucoup de championnats qui ont des matchs le lundi. La Ligue 1 n'a pas de match le lundi, la Bundesliga en a parfois, mais globalement, dans les championnats majeurs, on a que la Première Ligue, sinon ouais, qui a des matchs le lundi. Donc c'est clairement pour vendre plus le produit. Après, c'est vrai que déplacer un multiplex entier de une journée, c'est quand même assez fort. Alors je sais pas au niveau de la communication quand est-ce que ça s'est fait, parce qu'on a quand même des gens qui ont dû prendre un abonnement avant d'avoir la nouvelle, et ça c'est quand même assez négatif à ce niveau-là. Donc voilà, moi je pense que ça va se régler et que le multiplex va être changé de jour. En tout cas, vu le coup de force que sont en train de faire les supporters avec tout ce que t'as énoncé, Flo, bah c'est vrai que ça serait à peu près logique, parce que là c'est totalement impraticable, on peut plus jouer tout simplement. Ouais. De ce qu'on a vu ce week-end, il y a quand même, je sais pas si t'as une statistique ou quoi à nous donner, mais je sais pas combien de matchs ont été arrêtés en Ligue 2 durant ce multiplex, mais t'en as eu au moins deux.
De mémoire, 3 à 4.
Ouais. Ouais, avec c'est énorme.
À chaque match, t'as eu un, pas chaque match, mais t'as eu beaucoup de problèmes. C'est le plus gros, c'était Lorient avec le cas Régis juste avant. Mm. Mais t'as des jets de balles de tennis sur la pelouse qui, donc,
bah, c'était Roland Garros.
C'était très très drôle, ça.
C'était une promotion pour Roland Garros, attends.
Roland Garros 2025, du coup.
Ouais, ouais,
mais malheureusement, c'est plus sur Prime. La Ligue 2 n'est plus sur Prime, donc du coup, ça aurait pu avoir un parallèle avec Prime Video, mais pas du tout.
Oh, mais pareil, en fait, c'est le, ça se mord la queue, c'est toujours le même, en fait, qui a démoli tout ça, c'est la Fédé,
c'est la Brune.
À vouloir de la LFP. L'argent, voilà, ils avaient Bing, ça tournait bien. Ils sont partis sur autre chose, Prime.
Ouais.
Quoi qu'on en dise, en termes de prix, en termes de production, en termes de retour.
On sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne.
Ça convenait à tout le monde.
Ouais.
Et là, ils ont voulu faire un retour en arrière.
Après, Amazon ne voulait pas y retourner. Hein. Amazon ne s'est pas positionné en tout cas pour.
Oui, parce qu'ils demandent de trop.
Oui, voilà.
C'est à un moment.
Bon, suite au prochain épisode pour la Ligue 2 et la Ligue 1, pour les droits. De toute façon,
la semaine prochaine.
On va y avoir le droit ça à chaque bouge. Semaine. On verra, de toute façon, au mois d'octobre, en plus,
aller
il y aura le premier paiement.
Aller vivre en Angleterre, ça coûte moins cher de regarder la Ligue 1.
Ça, c'est vrai, et on en parlera. C'est vrai que c'est incroyable de se dire que. Mais bon, après.
Après, ça a toujours été le cas quand on voit les revenus sur les clubs.
Ils testent un truc que j'aimerais bien voir arriver en France, en tout cas l'OPP avec l'application que t'as, et c'est vraiment géré que par la Ligue, ça pourrait être intéressant pour arriver en France. On va parler des Jeux Paralympiques, et on fera le parallèle avec les Jeux Olympiques, ça commence demain, les Jeux Paralympiques, du 28 août au 8 septembre. Clément, qui était sur place au niveau des Jeux Olympiques, qu'est-ce que tu penses? Et donc, tu vas nous faire ton bilan, malheureusement rapide, en tout cas, oui, pour parler des Jeux Olympiques, mais...
Ton bilan carbone.
Mais est-ce que tu penses que les Jeux Paralympiques ont le même engouement que les Jeux Olympiques? Mais parle-nous d'abord de tes Jeux à toi.
Bon, je vais commencer par parler de mes Jeux, même si j'avais fait une petite intervention au téléphone.
Bien sûr.
En direct. Mais du coup, je suis allé voir en tout 5 épreuves, dont 2 accessibles à tous, avec le vélo, le cyclisme, où j'étais au pied de la butte Montmartre avec une ambiance de folie, et là c'était vraiment quelque chose. Je suis allé au Tour de France et je trouvais que c'était mieux qu'au Tour de France, donc à l'Alpe d'Huez en plus, donc
ouais. Ah ouais, ouais,
avec la résonance des rues et tout, ouais, ça donnait vraiment quelque chose. Et puis après on a eu je suis allé voir le triathlon par équipe où la France a fini quatrième en faisant une remontada magnifique, mais j'ai pas pu voir grand chose parce que je suis arrivé 30 minutes avant, il était 7h30 et c'était déjà rempli de monde. Ouais. Il y avait au moins 5 rangées de personnes devant moi pour voir le truc.
Incroyable.
Donc c'était vraiment
à 7h30 du matin pour du triathlon par équipe.
Ouais. C'était quelque chose. Et après je suis allé voir du golf où Victor Pérez, on a suivi pendant toute la la journée. Et c'était franchement, le golf, ça m'a impressionné. C'était super. C'est mon épreuve préférée.
Grosse ambiance aussi.
Il y avait une, bah forcément c'est pas une ambiance enfin de stade de foot, mais entre quand en gros entre les moments ils jouent leur coup, on a le droit de les encourager et tout, et franchement l'ambiance était super. Et puis c'est un sport qui est passionnant.
Mais tu peux avoir des grosses ambiances au golf, notamment ouais. la Ryder Cup.
Voilà, il y avait, il disait qu'à la Ryder Cup il y avait le double de personnes que par ouais. rapport au JO, donc bon, il y avait quand même moins d'ambiance, mais c'était quelque chose.
Est-ce que
même.
Tu penses que donc cet engouement que t'as vu toi de tes propres yeux à Paris pendant les Jeux, est-ce que tu penses que on va avoir le même pendant les Paralympiques? Là, ça démarre demain, tout en sachant que voilà, les gens ont repris le travail, voilà, les gens aussi.
C'est de ça que j'avais peur.
Les enfants, les jeunes et les enfants sont de retour à l'école à partir de lundi prochain. Est-ce que vous pensez, les garçons, qu'on va avoir le même engouement, Mathéo?
Alors c'est difficile à prévoir, dans le sens où déjà c'est pas le même public qu'on touche, bien sûr c'est dans le drapeau en fait, dans tous les cas, enfin dans le drapeau, dans le logo des Paralympiques, hein, c'est cette volonté quand ça a été créé justement de ne pas avoir les cinq anneaux représentés sous forme de petit arrondi de sourcils. non mais en gros non c'est pas le même public qu'on touche. Au-delà de ça, on aura quand même des gens qui n'ont pas pu aller aux JO, dans le sens où tout le monde s'attendait à des JO un petit peu catastrophiques, notamment dans la presse, on a entendu beaucoup de choses avant ces JO-là. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Parisiens qui sont partis en vacances ou qui sont partis un petit peu se cacher véritablement, et qui vont revenir et qui ont vu que ça s'était bien passé. On a quand même des sites qui resteront les mêmes. Ouais. On aura toujours le Grand Palais, on aura toujours d'autres sites, la Concorde, devant la Tour Eiffel. Enfin, ouais. On aura plein de choses encore. Donc, c'est des sports différents. Là aujourd'hui, il y a les places pour le Cécy Foot. Les places pour le Cécy Foot qui sont sorties en 5 minutes, les places les moins chères étaient vendues. On a 1,5 million de places vendues quand même pour les Paralympiques. C'est quand même des chiffres qui font et qui démontrent
le Stade de France aussi, hein, d'ailleurs.
Ouais, pour l'athlétisme.
Ouais.
Ouais, mais je crois qu'il en reste encore pas mal.
Mais ça veut dire que c'est encore abordable.
Ça part bien.
Ouais, c'est moins cher aussi que les Jeux Olympiques, faut quand même, on va se le dire aussi.
Ah bah bien sûr.
C'est un poil moins cher, donc forcément.
Bah, au-delà de ça, il y a eu aussi l'engouement justement des JO devant. Ouais. Ils l'ont boosté. Ça a boosté forcément derrière l'envie des gens, tu vois, de tous ceux en fait qui ont regretté d'être partis. Ils ont cette possibilité là maintenant, en plus en étant quasiment à domicile, j'ai envie de dire.
Cette deuxième chance.
Ouais. Voilà, de pouvoir aller voir des épreuves.
Bah, c'est 700 000 places qui se sont vendues pendant les JO.
C'est énorme.
Donc c'est le double.
C'est bien, c'est l'engouement qui a pris pendant les Jeux, et voilà. On a des athlètes français et françaises à suivre, hein, donc, pendant ces Jeux Olympiques. Donc
ne serait-ce que le choix du défilé des athlètes, pareil, on a modifié ça, on a parfait quelque chose sur la scène. Je comprends, ça aurait pu être plus compliqué,
oui.
Alors tout le monde avec les fauteuils, tout ça sur les bateaux. C'est quand même la privatisation des Champs-Élysées pour les Paralympiques olympiques.
Et la Concorde, c'est clair. Ça va être une sacrée exposition.
On annonce au moins 3 heures de show pour l'ouverture.
Donc ça va être sympa. Ça va être vraiment être sympa. C'est demain soir, donc le 28. Clément, tu voulais rajouter quelque chose?
Bah, j'y vois juste un petit bémol. C'est que je comprends pas pourquoi ça a été pas fait dans la foulée des Jeux Olympiques, dans le sens où l'engouement, il a un petit peu redescendu.
Le souffle est retombé. Ouais.
Et ça va peut-être être un peu plus dur de le refaire monter aussi haut que les Jeux Olympiques, alors que si ça avait suivi, peut-être que ça aurait été un peu plus dans la continuité, et on aurait peut-être eu plus de temps déjà pour les suivre, parce que là, ça va être un peu plus compliqué. Et forcément, avec l'engouement, suivre les Français et tout, tous les jours comme ça, je pense qu'on aurait continué et ça aurait pu donner quelque chose de pas mal. Mais je pense que ça peut quand même donner quelque chose de pas mal.
Le délai vient du fait qu'il faut réadapter. En fait, il faut que tout le village soit évacué pour ensuite remis aux normes et que toutes les athlètes, en fait, arrivent.
Ouais.
Et il y a aussi le côté, en fait, c'est deux fédérations.
Ah oui, ok.
Complètement différente.
C'est complètement différente. Et en fait, ils pourraient très bien faire leur JO s'ils veulent tous les 5 ans. Enfin, ils cohabitent en fait en termes de lieu, mais c'est pas la.
C'est vrai que les Paralympiques profitent aussi de la notoriété. C'est grâce aux Olympiques que tu gagnes de plus en plus en notoriété pour les Paralympiques. Ouais. Et c'est vrai.
D'où le fait que la flamme olympique en fait soit éteinte aussi.
Ouais.
Et que en fait la flamme paralympique est toujours allumée, enfin elle vient de l'Angleterre,
ouais.
Et non de la Grèce.
Ok.
Non mais c'est très intéressant ces précisions, Cédric. En tout cas, On aura une couverture médiatique aussi similaire. Hein. France Télévisions va faire les choses en grand. On verra le maximum d'athlètes et de compétitions pendant ces 10 jours de compète. Hein, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'une semaine plus tôt, ça aurait été bien.
Oui, voilà,
du coup,
tu
continues pendant les vacances et tu finis là pour la rentrée scolaire. Là, tu aurais eu tout le monde devant la télé, tout le monde dans les stades, et c'est vrai que ça aurait été plus facile.
Mais à côté de ça, malgré que ça va être la rentrée des classes aussi, je sais que par exemple, il y a une école d'Angers qui va partir 2-3 jours, je crois.
Pour les
pour aller voir des épreuves justement des Paralympiques, aussi découvrir certains lieux de la capitale.
Ça, c'est
donc
bien,
voilà, il y a aussi ce côté-là, tu vois, auprès des écoles qui est mis en avant.
Dans ce cas-là, le faire une semaine plus tard.
on verra bien. En tout cas, ça commence demain soir avec la cérémonie d'ouverture. On finit avec 2-3 actus internationales avec le nouveau record du monde de Darman Duplantis. Il l'avait battu pendant les Jeux Olympiques à Paris. Il en a battu à nouveau, à 6m26 maintenant. On rappelle qu'il va faire centimètre par centimètre à la manière de Boubka dans les années 80. Voilà, les primes sont présentes. Mais il a raison, en tout cas. Mais c'est un très beau record du monde. Victoire aussi pour Alex Lagnier en badminton, le nouveau prodige du bad français. S'est imposé en Super 750 en battant le Taïwanais Shu Tien Shen, 21-17, 22-20. Il était absent des Jeux Olympiques parce qu'il s'était blessé dans sa préparation, malheureusement. Il n'a pas pu les faire à Paris. Il sera présent donc dans 4 ans à Los Angeles. En tout cas, on lui souhaite à l'US Open, parce que l'US Open bat son plein. Il a commencé donc hier, la nuit dernière. Clara Burel a sorti le match de sa vie. Elle était menée 6-0, 3-0. Elle a fini par s'imposer 7-5 dans la deuxième et troisième manche. Elle est qualifiée. Elle a battu l'américaine Sloane Stephens. Elle affrontera Victoria Azarenka au prochain tour. Donc c'est quand même une sacrée cliente du côté de l'US Open pour Clara Burel. Chez les hommes, Rinderknecht, Müller, Caso, Humbert et Monfils sont qualifiés pour le second tour. Aujourd'hui, on a Arthur Fils face à l'américain Tien, Moutet face à Korda, mais également aussi Manarino et Hugo Gasto dans le tableau féminin. Élimination de Gracheva, Dodin et Paquet. Qualification de Diane Perry et de Jessica Ponché aujourd'hui. À suivre dans la nuit, l'entrée en lice de Caroline Garcia face à la mexicaine Zarazua. Voilà pour l'US Open. Et bien évidemment, tu m'en parlais avant l'émission, la Vuelta qui est en cours en ce moment avec la victoire de Wout van Aert aujourd'hui. 3e victoire d'étape lors du Tour d'Espagne 2024 qui avait débuté il y a 10 jours de ça maintenant du côté de Lisbonne au Portugal. 2e aujourd'hui, Quentin Paché de la Groupama FDJ. Pour l'instant, pas de victoire d'étape française, Clément.
Bah oui, on espère que ils vont prendre exemple sur les JO pour ces prochaines semaines et remporter au moins une victoire.
C'est vrai qu'on a toujours une victoire française au Tour d'Espagne ces dernières années. Chaque année, on a toujours une victoire, en tout cas dans ce Tour d'Espagne. Tout en sachant que certes, c'est pas une victoire. Il n'est pas français, mais c'est une équipe française qui est leader de cette Vuelta avec Décathlon.
Oui, Décathlon AG2R.
AG2R et donc Ben O'Connor.
Oui.
Voilà, qui est 3 minutes 50 d'avance sur Primoz Roglic, triple vainqueur du Tour d'Espagne, donc dans son histoire. Est-ce que vous avez une dernière info à vouloir évoquer, les garçons? Rien du tout.
Non.
Eh bien, écoute, on se retrouve.
Le Grand Prix était pas terrible.
Non, c'est vrai que Lando Norris s'est imposé face à deuxième Max Verstappen, c'est ça?
Ouais.
Et troisième Charles Leclerc.
Voilà, mais pas exceptionnel comme Grand Prix.
Pas exceptionnel. Bon, on verra. C'était le Grand Prix des Pays-Bas. Donc c'était ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine pour l'émission anniversaire avec toute l'équipe autour de la table et le retour d'Alex, donc la semaine prochaine pour cette émission anniversaire de Génération Sport. Ciao, ciao.